Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. À Londres, le fleuve est devenu un moyen de transport presque comme les autres, comme prendre le métro ou le bus. Sur la Tamise, c'est toujours l'affluence entre bateaux de touristes, transport de marchandises et donc usagers du fleuve. Thames Clippers est aujourd'hui le principal opérateur. Il a accueilli 3,8 millions de passagers en 2015. Il estime que pour 2016, plus de 4 millions ont traversé le fleuve pour se rendre au travail. Reportage sur la Tamise, Marie Billon.
Sur la rive sud, le quartier de Greenland est calme. Les anciens docks industriels ont été reconvertis en quartier résidentiel. Petite maison avec jardin, immeuble bas au cachet marin. Juste en face, de l'autre côté de la Tamise, c'est un tout autre monde. Celui des tours de verre des banques de Canary Wharf. C'est là-bas qu'Andrew travaille et c'est ici, à Greenland, qu'il vit. Plutôt que de faire les 2 kilomètres qui le séparent de la station de métro la plus proche, le jeune homme préfère prendre le bateau. Ce matin, il attend le service de 8h34.
C'est beaucoup plus rapide que le métro pour moi, c'est direct. La traversée dure 4 minutes. Porte à porte, ça fait 20-25 minutes, au lieu d'une demi-heure, trois quarts d'heure en métro.
Quand le bateau arrive, des employés installent rapidement le petit ponton pour laisser sortir les passagers et monter les autres. Depuis 2015, on paie son trajet avec la même carte que le métro ou le bus, on appelle ça l'Oyster Card. Et depuis 2016, les cartes de crédit sans contact sont aussi acceptées. Mais ça reste plus cher. Un ticket de Greenland Dock jusqu'au centre coûte l'équivalent de 7 euros au lieu de 3 en métro. Peu importe pour Lorraine qui prend tous les jours le bateau, puis le tube vers le nord de la capitale.
Aller au travail me prend environ 1h20. Mais dans le métro, on est comme du bétail. En bateau, je sens que je suis une passagère. C'est calme, relaxant. Je suis sûre d'avoir une place assise. J'attrape un café au bar du bateau. C'est une super manière de commencer la journée.
Cela fait plus de 8 ans que Lorraine fait ce trajet et elle ne s'en lasse pas. Ce matin, elle est confortablement assise dans la rangée du milieu. Elle regarde son portable, d'autres ont un livre à la main ou des écouteurs dans les oreilles. Et puis, il y a les passagers enthousiastes comme Enrico. Il prend le bateau pour aller au travail depuis 4 ans et il essaie toujours de passer quelques minutes sur le pont.
J'adore être ici au grand air, c'est magnifique. Chaque jour, je remarque quelque chose de nouveau. Il y a plein de choses à voir depuis la Tamise. Et puis, je déteste le métro, j'ai choisi où habiter en fonction de ça. Mais ne dites surtout pas à tout le monde à quel point on est bien là, parce qu'on ne veut pas que les bateaux soient bondés.
The next pier is Blackfriars. Pour l'instant, on est loin du compte. Il y a bien certaines personnes debout sur le bateau, mais c'est parce qu'elles sont accoudées au bar. Il y a du monde, oui, il y a peu de sièges vides, mais il suffit de comparer les données. Le métro embarque 4 millions de passagers par jour. Thames Clippers, 4 millions en 2016. C'est quand même 200 000 de plus qu'en 2015, et le chiffre est en constante augmentation. Mais pour Jeff Simons, le président directeur général de Thames Clippers, il ne s'agit ni d'une course, ni d'une compétition.
Nous nous considérons comme un mode de transport unique et haut de gamme. On ne propose pas le même service que les autres et nous mettons l'accent sur le confort du passager. Quand il entre dans la cabine, il est accueilli par un employé. Il y a un vrai café où il peut acheter un croissant ou un pain au chocolat, puis s'asseoir et utiliser la connexion Wi-Fi gratuite. Il arrive au travail relaxé.
This boat will now operate at high speed. Passengers are to take care when moving around the vessel.
Pas de risque d'embouteillage non plus sur les 4 lignes de Thames Clippers. Il y a un bateau toutes les 20 minutes à chacune des 21 jetées de la capitale. Enrico et Lorraine, qui prennent le bateau depuis des années, seront les premiers à dire que la qualité du service a beaucoup évolué ces dernières années. Et vu le succès que Thames Clippers rencontre, la compagnie poursuit les investissements.
Actuellement, nous avons avons 15 bateaux, mais nous en construisons deux nouveaux. Ces deux dernières années, nous avons investi 26 millions de livres sterling. Cette année, nous devrions desservir deux nouvelles jetées. Une dans le quartier en pleine régénération de Battersea au sud-ouest et une autre à l'est de Canary Wharf, si notre projet de construction est accepté.
Retour sur la terre ferme. Thames Clippers profite en fait du développement de Londres. Les bords de Tamise ne sont pas tous mis en valeur, mais ces dernières années, les promoteurs immobiliers ont réalisé leur potentiel et le nombre de constructions s'est multiplié. Pour le docteur Angeloudis de l'Université Imperial College de Londres, le développement du transport fluvial a cependant ses limites.
Pour moi, c'est un service complémentaire. Il ne peut servir qu'à un nombre très limité de personnes vivant près de la Tamise et qui n'ont pas besoin d'utiliser d'autres moyens de transport pour aller où elles veulent, car aucune des jetées n'est proche d'une station de métro, par exemple.
Mais il ne faut pas oublier ceux qui occupent les sièges aux heures creuses. Les touristes sont aussi très friands de ces bateaux-mouches à l'anglaise.
Comme dans beaucoup d'autres pays européens, le problème des cyberattaques fait de plus en plus la une de l'actualité en Allemagne. À l'université militaire de Munich, un laboratoire a carrément pour mission tous les jours de contrer ces menaces multiformes, toujours plus inquiétantes. Pauline Curté.
Et si vous étiez une victime potentielle de piratage, mais que vous ne le saviez pas encore ? Pour la professeure spécialisée en informatique et cybercriminalité Gabi Dréo, cela ne fait guère de doute. Chaque utilisateur d'un appareil connecté est une cible parfaite pour les hackers. Dans son laboratoire de Munich, elle étudie chaque jour les nouvelles menaces informatiques, de quoi devenir parano.
Il y a tellement de risques. Par exemple, les entreprises qui fabriquent de nouveaux appareils connectés pour la vie quotidienne, comme des smartphones ou des tablettes, n'intègrent pas encore la sécurité lors de la fabrication. Elles y pensent après, une fois que l'appareil est terminé. Mais c'est trop tard.
Conséquence de ces virus malveillants, des dommages qui se chiffrent en milliards d'euros chaque année pour l'économie allemande. Et Gabi Dréo est formelle, cela risque d'empirer. Elle craint dans le futur des attaques contre, par exemple, des hôpitaux ou le système d'alimentation en électricité de villes entières. Sans compter que depuis l'élection présidentielle américaine et les soupçons d'intervention de la Russie, les autorités allemandes craignent également un piratage des élections fédérales de septembre prochain par une puissance étrangère. Au laboratoire de Munich, qui se concentrait au départ sur les risques économiques du piratage, il faut désormais prendre cette nouvelle dimension en compte. Gabi Dréo.
Si un piratage a pu se produire aux États-Unis, pourquoi ne pourrait-il pas se produire ici ? Mais je pense que les autorités commencent à prendre en compte le danger et mettent les moyens pour le combattre. Les simples usagers peuvent également agir à leur niveau, prendre garde aux fake news et manipulations de l'information, avoir un bon système de sécurité sur son ordinateur et surtout ne pas cliquer sur des liens étranges envoyés par mail.
Gabi Dréo ne travaille pas seule. Une cinquantaine d'étudiants l'accompagnent chaque année. Elle prévoit d'ailleurs d'en former encore plus, car fin 2016, le gouvernement allemand a fait du combat contre le cyberhacking sa priorité numéro un. De quoi susciter des vocations.
Main propre et argent sale, bienvenue en Dirty Suisse.
Bien loin des cartes postales, bienvenue en Dirty Suisse. Pas celle des grosses Rolex, mais celle des demandeurs d'asile. Je te parle d'un petit pays avec le plus haut taux de suicide. Je te parle de celle de...
Le 12 février dernier, les Suisses acceptaient enfin par référendum que les petits-enfants d'immigrés puissent accéder plus simplement à la naturalisation. Un véritable soulagement pour plus de 25 000 jeunes d'origine italienne, turque ou encore des Balkans, nés dans le pays et plutôt bien intégrés. Reste que les épreuves restent difficiles pour les candidats à la naturalisation. Et c'est le reportage de Virginie Langeroc.
Ils sont une vingtaine à se retrouver ici après leur travail. Ils suivent une dizaine de cours gratuits dispensés par l'association Caritas, à Nyon, près de Lausanne. Tous des étrangers qui vivent en Suisse depuis 12 ans, parfois depuis plus de 20 ans. Tous préparent ou représentent leur grand oral de naturalisation, comme Kemal, en Suisse depuis 27 ans.
J'ai déjà passé une audition et puis en fait ça c'était très complexe pour moi. Je n'ai pas bien apprécié l'histoire des politiques déjà. Je me suis planté en toute la longueur. Mais bon, je vais réessayer et puis je vais arriver. Mais j'ai peur quand même parce que j'ai peur qu'ils me posent des questions pièges.
Comme Kemal, ils sont quelques dizaines de milliers à vouloir obtenir chaque année la naturalisation. Dans certains cantons, la demande a doublé l'an passé. Les étrangers anticipent le durcissement de la loi qui va les obliger dès l'an prochain, non seulement à parler, mais aussi à écrire la langue du canton où ils vivent. On ne sait pas combien de demandes sont rejetées chaque année, mais la démarche exige une sérieuse motivation. Elle est coûteuse, jusqu'à 2000 euros, et difficile, car pour prouver sa bonne intégration de citoyen suisse, on doit passer une audition, une sorte de grand oral devant le conseil communal, qui est souvent éprouvante, comme l'explique la formatrice de Caritas, Véronique Chassot.
Ce qui est le plus dur pour eux, c'est le système politique. On se retrouve sur trois niveaux, au niveau national, au niveau cantonal, au niveau communal, et puis les trois pouvoirs, ça je pense que c'est dans toutes les démocraties européennes, mais en tout cas, voilà, il a ses spécificités qui font qu'il est un peu plus compliqué à appréhender que d'autres systèmes européens.
Avec des jeux de cartes, des photos, des tableaux, les candidats, dont certains viennent de pays qui ne sont pas des démocraties, tente de cerner le complexe système politique suisse. Juan Salvador n'a pas eu besoin de cours, mais il reconnaît avoir bien bûché avant de se présenter.
Pour moi, ce n'était pas si difficile parce qu'il faut dire que j'étudiais quand même pas mal. Et puis, je m'intéressais aussi pas mal quand même à l'histoire, géographie en Suisse, tout ça. Mais il faut quand même, je conseille d'étudier un peu. Et puis surtout maintenant, apparemment, ils vont passer cette loi qu'il va falloir savoir écrire. Donc, si j'étais épargné par rapport à ça.
Après deux années de démarche, aidé par sa femme qui est suisse, Juan Salvador a réussi son grand oral. Il doit bientôt prêter serment sur la Constitution et il n'en revient pas d'avoir son mot à dire sur le fonctionnement du pays.
Je viens de Cuba, c'est une dictature. Alors, c'est important parce que j'ai voté là-bas chez moi, avant, mon pays, ancien pays, parce que c'était pour une seule personne, une seule partie. Ici, il y a le choix. Pour moi, c'est important, c'est ça la démocratie. Et je trouve génial le fait que c'est une démocratie participative, donc le peuple a le pouvoir comme le président.
Une démocratie qui se mérite, puisque les démarches sont longues et parmi les plus difficiles du continent européen. C'est bien pour cela que les étrangers restent si nombreux en Suisse, parfois jusqu'à la troisième génération.
Pay your interns! Pay your interns! Pay your interns!
Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors comme nous l'avons entendu à l'instant, hein, ils étaient de retour lundi à Bruxelles pour battre le pavé et dénoncer leurs conditions de travail. Ce sont les stagiaires des institutions européennes bien sûr, mais pas seulement. Car paradoxalement, Eve, si la situation s'améliore pour les stagiaires dans les pays membres, eh bien à Bruxelles, les abus sont encore nombreux dans le domaine.
Oui Catherine, c'est un peu le syndrome du cordonnier le plus mal chaussé finalement, alors que de nombreux pays membres de l'Union européenne ont fait des efforts ces dernières années, notamment la France. Les institutions européennes continuent de figurer parmi les mauvais élèves européens en matière de stage. Rassurons-nous, elles ne sont pas les seules. Les stagiaires réunis lundi à Bruxelles sur le rond-point Schuman ne travaillaient pas seulement pour l'UE, ils étaient nombreux à travailler aussi pour les lobbies et les associations qui elles-mêmes travaillent pour l'UE. Bref, la capitale européenne n'est pas le paradis des stagiaires que l'on décrit parfois.
Mais alors, que revendiquent-ils exactement ?
Eh bien d'être payés, tout simplement. Alors entendons-nous bien, hein, il existe des stages rémunérés au sein des institutions européennes, notamment à la Commission. Mais selon les organisateurs de la manifestation de lundi et de la campagne Just Pay, il y aurait environ 200 stagiaires qui travaillent gratuitement au Parlement européen. La plupart du temps, ils travaillent pour des députés européens et leur situation est très variable. Certains touchent 600 euros par mois, d'autres rien du tout pour des stages qui s'étalent parfois sur 6 mois.
Eve, comment en est-on arrivé là ?
Eh bien, c'est un peu une rencontre de volonté entre ces structures et les jeunes diplômés. Les institutions et les lobbies ou associations bruxelloises ont besoin de main-d'œuvre, mais n'ont pas forcément les moyens de créer de nouveaux emplois, ou en tout cas, ils se réfugient derrière la crise pour ne pas le faire. Et ils se tournent donc vers une population qui a soif d'apprendre, qui n'arrive pas à s'insérer sur le marché du travail. Les stagiaires. D'autant que l'on sait que Bruxelles attire beaucoup de jeunes Espagnols, Grecs ou Italiens qui font face à des taux de chômage catastrophiques dans leur pays. Ces jeunes acceptent donc de travailler gratuitement plutôt que de ne rien faire, en espérant amasser de l'expérience. Et cela n'aide pas à repenser le système.
Et cette situation dure parfois des années.
Oui, chez nos confrères de la RTBF, la radio publique francophone belge, on pouvait ainsi découvrir le témoignage de Nuno Loureira, qui a enchaîné 7 stages dans la capitale belge, tout en caressant l'espoir que cela débouche un jour sur un emploi réel, lié à l'Union européenne. En tout, cela correspond à 3 ans et demi, sans toucher un centime, ou si peu, où il a dû emprunter à son entourage, en attendant des jours meilleurs.
Alors Eve, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, ni pour ces jeunes, ni pour l'Europe.
Ah non, comme le souligne la jeune députée européenne allemande Thierry Reinke du Parti des Verts, qui peut aujourd'hui se permettre de faire ces stages? Uniquement les jeunes qui ont les moyens de se faire aider par leur famille, donc, et qui ont déjà une origine sociale confortable. Ce qui ferme la porte de nos institutions et du jeu démocratique bruxellois aux jeunes qui ont des origines plus modestes. Et ça pose un véritable problème de représentation de la population européenne, mais c'est aussi un très mauvais signal envoyé à cette jeunesse.
Et l'Union européenne n'est malheureusement pas la seule institution dans le viseur.
Non, le même jour, les jeunes stagiaires ont aussi défilé à Genève. L'Organisation des Nations Unies fait d'ailleurs régulièrement partie des institutions internationales montrées du doigt par les stagiaires. En 2013, une enquête menée par une association de stagiaires genevoises révélait que sur les 4000 stagiaires de l'ONU, seuls les 2/3 étaient payés. À titre de comparaison, en 1996, il y a 20 ans, l'organisation n'employait que 142 stagiaires. C'est environ 28 fois moins. Certaines histoires sont même devenues célèbres. David Hype, un jeune diplômé néo-zélandais venu faire un stage à l'ONU à Genève, dormait dans une tente, faute de pouvoir louer un logement. Il avait finalement décidé de démissionner en dénonçant les conditions de son stage. Combien d'histoires comme celle-ci et de grèves comme celle de lundi faudra-t-il encore avant de repenser un système d'insertion qui ne fait plus ses preuves? En tout cas, pour l'instant, l'Union européenne ne s'est pas encore officiellement exprimée sur la question.
Merci Eve Minot, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
Merci Catherine, à la semaine prochaine.
An earthquake is the perceptible shaking of the surface of the earth, which can be violent enough to destroy major buildings and kill thousands of people. The severity of the shaking can be barely felt or violent enough to toss people around.
On le surnomme Melih le Fou en Turquie et il a encore frappé. Je veux parler de Melih Gökçek, autant connu pour sa longévité exceptionnelle, déjà 23 ans à la tête de la mairie d'Ankara, que pour ses sorties à l'emporte-pied sur Twitter. Sa dernière folle théorie, les ennemis de la Turquie chercheraient à lui nuire en provoquant carrément des séismes. Anand Lauer nous raconte cette drôle d'histoire.
Melih Gökçek n'a rien d'un sismologue. Le maire d'Ankara s'est essayé au journalisme avant de faire carrière en politique. Mais il a une idée très arrêtée sur l'origine des séismes qui ont secoué ces derniers temps l'ouest de la Turquie, près du détroit des Dardanelles. Pour les Dîles, il est évident que ces secousses n'ont rien à voir avec les failles pourtant connues de longue date qui parcourent le pays, en particulier celles qui bordent ses côtes sous la mer Égée et de Marmara. En fait, si la Turquie tremble, c'est qu'elle est victime d'un complot de puissance extérieure suffisamment douée et déterminée pour provoquer des séismes artificiels. Melih Gökçek l'a affirmé sur Twitter à ses 3,7 millions d'abonnés. Après avoir fait ce qu'il appelle des recherches, le maire d'Ankara a découvert qu'un navire de recherche sismique étranger voguait au large des côtes turques au moment des secousses début février. Certains, en ce moment, veulent porter un coup à la Turquie, faire flancher son économie en provoquant un tremblement de terre. A immédiatement réagi Melih Gökçek sur Twitter, appelant à placer sous surveillance tous les sous-marins et navires équipés de grands appareils dans les environs d'Istanbul, Marmara et les Dardanelles. Ce n'est pas la première fois que le maire d'Ankara défraie la chronique avec ce genre de déclaration. Après le coup d'état manqué de l'été 2016, il avait accusé l'imam Fethullah Gülen, le cerveau présumé du putsch, d'avoir utilisé des djinns, c'est-à-dire des esprits, pour tenter ses méfaits. Il l'avait aussi accusé de chercher à créer un tremblement de terre artificiel, une idée fixe donc. L'affaire serait amusante si Melih Gökçek n'était pas le maire de la capitale turque et une figure de premier plan du parti au pouvoir, l'AKP, lequel se garde bien de contredire ce trublion. Après tout, à l'approche d'un référendum sur le régime présidentiel, que le pouvoir présente comme un rempart contre les influences étrangères, il est toujours bon d'agiter les craintes d'un complot.
Accent d'Europe, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, à la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants de journal.